Et ce matin, Lise, je vous laisse le soin de nous dire ce dont il va être question et de nous présenter notre invité.
Bah, étant donné qu'on ne fait que des matinales spéciales sur la guerre, il va être question de la guerre. Ça, c'est pas une grande surprise, mais je suis ravie de pouvoir prendre un peu de hauteur, si on peut y arriver, avec Raphaël Enthoven, philosophe. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Raphaël, la semaine dernière, toute cette histoire, notamment autour de l'hôpital à Gaza, nous a tous particulièrement touchés. Et il y a une question que je voulais vous poser, c'est pourquoi le monde ne nous croit pas et fait plus confiance à une organisation terroriste comme le Hamas qu'à ce que peut dire Israël qui est un État démocratique ?
C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Le monde entier a choisi de croire le Hamas plutôt que l'évidence. On avait deux hypothèses sous les yeux. Hein. Soit d'un côté la fable du Hamas selon laquelle une armée régulière qui envoie des bombes lourdes avait fait 500 morts tout en laissant un cratère de 40 cm dans un parking. Et l'autre version qui était corroborée par des enregistrements, par des images, par des informations très précises selon laquelle évidemment c'était une roquette qui venait de Gaza même. Et ce qui est fou, c'est que entre une fake news et une réalité, entre une fake news désirable aux yeux de la plupart des gens et une réalité, eh bien c'est la fake news qui l'a emporté. Le monde entier a choisi de croire le Hamas plutôt que ce qui sautait aux yeux. Et surtout, il y a eu ensuite un second temps quand il a été avéré qu'évidemment le Hamas était derrière, ou le djihad islamique palestinien, enfin peu importe si vous voulez, pour le coup ce sont des terroristes, quand il était avéré que c'était ça l'origine, eh bien la réaction a été de dire « oui mais en fait l'origine on s'en fout, ce qui compte c'est la tragédie elle-même ». C'est absolument fascinant, ce à quoi nous avons assisté. On a assisté à un déni collectif volontaire et un déni collectif qui se continue encore aujourd'hui. La meilleure preuve du déni, ce sont les gens qui arrachent les photos des bébés, qui enlèvent les photos des bébés, non parce qu'il s'agit de bébés juifs, mais parce qu'ils n'ont pas envie de regarder, ils n'ont pas envie de savoir. On est dans un déni conscient, dans une volonté de ne pas connaître la vérité et de lui substituer un scénario qui convienne davantage à ceux qui détestent Israël.
Alors, comment est-ce que l'Occident peut être à ce point aveugle sur ce combat qu'Israël mène aujourd'hui contre le terrorisme, en sachant que l'Europe et la France en particulier ont déjà été particulièrement touchées par le même terrorisme islamique ? Ça n'est pas une surprise.
Non, ce n'est pas une surprise. Ça n'est pas une surprise et ça ne date pas d'hier non plus. C'est un mystère. Si en France, c'est l'équivalent de… Si le nombre de morts peut prendre un sens, je ne suis pas sûr de ça. Enfin, c'est l'équivalent d'une dizaine de Bataclan en France. S'il y avait eu des choses comme ça, imaginons un instant qu'il y ait un attentat de cette ampleur en France et que des gens en Israël appellent immédiatement au cessez-le-feu et à la négociation avec les gens qui ont tué, enlevé des bébés ou éventré des femmes enceintes. Imaginons cette situation pour comprendre l'absurdité, l'obscénité, le ridicule de la position de ceux qui, au nom de la paix, considèrent qu'il faut faire du Hamas un interlocuteur dans des négociations. D'homme à homme, ceci est monstrueux. Je ne sais pas d'où vient une telle volonté de déni. Ce que je sais, c'est que nous sommes ici à un moment critique du déni, parce que là, que le déni en général porte sur le fait qu'Israël soit la seule démocratie du lieu et le seul endroit, par exemple, où les Arabes peuvent s'habiller comme ils le souhaitent, afficher leur orientation sexuelle ou critiquer leur gouvernement sans finir en prison, que les gens au quotidien ne reconnaissent pas cela, c'est une chose. Mais là, qu'ils refusent de voir l'ampleur du massacre, qu'ils arrachent des affiches de bébés, ou qu'ils se retranchent derrière le goût d'expliquer les choses pour faire de cette barbarie absolue l'équivalent d'un simple crime de guerre, ça ne se fera pas impunément. Les gens qui ont versé dans le déni à ce moment précis, en ce moment, sont à mon avis, paieront le prix fort de cela, politiquement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça reste stupéfiant.
Alors, ce débat, il a même été transporté au sein de l'Assemblée nationale française, qu'on pourrait croire éloigné de ça, mais que l'islamo-gauchisme a finalement rendu très actuel en France. Et puis, évidemment, il intéresse les gens parce que Emmanuel Macron était hier en Israël. Comment est-ce que sa visite a été ressentie en France, Raphaël Enthoven ?
Oh, d'abord comme une chose normale. Il est normal qu'il s'y rende. Non, pour le coup, je n'ai pas entendu de critiques particulières. Si, il y a le fait que évidemment tout le monde s'est indigné. Enfin, tout le monde. Les négationnistes du présent, c'est-à-dire ceux qui veulent minorer la tragédie que nous avons vécue, ont tous dénoncé l'ambition d'Emmanuel Macron de concevoir une coalition sur le modèle de celle qui a vaincu Daesh, qui a vaincu l'État islamique. Mmh. Et ça, c'est très intéressant. Tout l'enjeu pour ces gens-là, c'est de distinguer le Hamas de l'État islamique. C'est de dire que ce n'est pas la même chose et de présenter le Hamas comme un interlocuteur vraisemblable, un interlocuteur possible, quelqu'un avec qui il faut négocier. Et il est vrai que cette proposition d'Emmanuel Macron ne diabolisait pas le Hamas, mais traitait le Hamas comme il doit l'être, c'est-à-dire comme une organisation monstrueuse dont la destruction est une condition sine qua non de la paix, exactement comme Daesh. Et le refus d'accepter cela, le refus d'accepter cette équivalence, est à mon avis ce qu'il y a aujourd'hui de plus dangereux dans le discours politique. Il y a vraiment deux dimensions à cette chose-là. Il y a l'effroi d'un côté, et puis les affreux ensuite, c'est-à-dire les gens qui pratiquent la négation de l'effroi. Donc oui, il y a eu un début de polémique autour de cette affaire, mais enfin, les gens qui conduisent ces polémiques en France, c'est-à-dire essentiellement la France insoumise, sont totalement sortis de l'arc républicain, plus personne à part leurs militants et les rares électeurs qui leur restent ou qui leur resteront, ne les prennent au sérieux. Ce sont des gens qui se sont définitivement disqualifiés, à mon avis. Pourtant, même s'il est difficile de dire que quelque chose est définitif en politique, là, je ne vois pas comment on peut se remettre d'un tel déni, d'une telle mauvaise foi, d'une stratégie électoraliste qui consiste à ne pas dire que le Hamas est un mouvement terroriste et à faire passer ça pour une prise de hauteur. Moi, je pense que ceux qui fonctionnent de cette manière-là ne s'en remettront pas politiquement. Ils ont là joué avec des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer. Et le prix pour eux sera la disgrâce publique.
On espère. Alors, en plus de...
Ce qui est plutôt bon signe. Je veux dire, c'est pas si mal de penser que les gens, les gens s'apercevront de ce qu'ils ont élu.
Alors, en plus de l'atrocité des massacres, il y a évidemment la tragédie des otages qui sont dans les têtes et dans les cœurs de tout le peuple juif. Il n'y a
non,
finalement
pas seulement le peuple juif, pas seulement le peuple
et des
juif.
Autres, absolument.
Il
ne
faut pas judaïser cette histoire.
Non, c'est vrai.
Très important.
C'est vrai, tout à fait.
Ils ont été enlevés et pris en otage parce qu'ils étaient juifs.
Oui.
Et ce fait-là fait de leur prise d'otage le problème de l'humanité tout entière. Voilà, à mon avis, en tout cas.
Oui, merci de me corriger, c'est vrai. En tout cas, il n'y a aucune bonne solution et on l'a vu hier, Raphaël Enthoven, puisque donc on entendait le témoignage de cet otage libéré et on sentait toute la manipulation du Hamas derrière, puisque cette pauvre vieille dame est donc venue raconter à la télévision qu'elle avait été bien traitée et on la comprend puisque son mari est encore dans les geôles du Hamas.
Oui, je n'ai pas vu le témoignage dont vous parlez. J'ai pas vu le témoignage dont vous parlez. Ce que je sais, c'est qu'on a libéré très peu d'otages pour l'instant et que le fait que les otages, enfin, ces otages-là sont une privation collective de liberté. Une partie de nous-mêmes est retenue avec eux, comme on pouvait dire « je suis Charlie ». Et il est essentiel à la conscience de préserver cette singularité, de préserver cette inquiétude qui peut vous coûter le sommeil pour des gens qu'on ne connaît pas. Il faut répondre avec le maximum d'humanité à la barbarie la plus totale. Et répondre avec le maximum d'humanité, c'est souffrir des douleurs qui nous sont épargnées, se sentir solidaire des gens qui sont retenus, des enfants qui sont retenus loin de leurs parents quand leurs parents n'ont pas été tués sous leurs yeux. Il faut avoir constamment cette image en tête. On leur doit bien ça et ne pas transiger avec ce souvenir. De là, le dégoût qui saisit les gens qui voient d'autres personnes arracher les affiches de bébés, au nom du fait que ce sont des bébés israéliens et que par conséquent, ils ne doivent mériter aucun soin et on ne doit pas les voir, on ne doit pas les plaindre. L'antisémitisme, on savait que l'antisémitisme se portait bien, mais alors, je dois dire que l'exhumation spectaculaire d'un tel antisémitisme, d'un antisémitisme qui va jusqu'à arracher des photos de bébés parce que ce sont des enfants juifs, donne à cette époque les contours d'une sorte de guerre au judaïsme, et pas seulement à Israël, de guerre au peuple juif, de guerre au fait d'être juif, et pas seulement à Israël, qui, à mon avis, fait de cela le problème, encore une fois, de l'humanité entière.
Oui, c'est vrai que malheureusement, là, on pense aussi à la Shoah, Raphaël Enthoven, si ce oui. n'est que cette fois, que les gens disaient on ne savait pas, et que là, ils ne peuvent pas tout à fait dire on ne savait pas, parce que là, oui, les juifs ne veulent pas savoir.
Vous avez raison sur le caractère génocidaire de l'entreprise. C'était des pogroms, ce qu'on a vécu, enfin ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Bien sûr, vous avez raison. Mais il y a une différence à faire, à mon avis, enfin il y a plusieurs différences à faire, mais il y en a une essentielle entre le Hamas et le nazisme. C'est que le nazisme assumait une détestation métaphysique des Juifs, et les nazis se vivaient comme supérieurs aux Juifs, alors que le Hamas a besoin pour mener sa campagne, pour faire sa guerre, de se présenter encore comme la victime des gens qu'il veut exterminer jusqu'au dernier. Il y a quelque chose, et cette différence est très importante parce que, en termes d'opinion publique, ça change tout. Les nazis sont inexcusables, bien sûr, parce qu'ils ne se donnent à eux-mêmes aucune excuse. Mais le Hamas, qui se présente comme porte-parole des opprimés face aux oppresseurs, comme victime de ceux qu'il entend exterminer, dont le sophisme est relayé par quantité de gens à travers le monde, eh bien, le Hamas, lui, a quantité d'avocats. Pour dire qu'il faut comprendre ces actes, il faut les inscrire dans le contexte d'une histoire séculaire. C'est-à-dire il y a plein de gens aujourd'hui qui communient dans le sentiment que des gestes qui sont l'équivalent de la Shoah par balle. Il y a plein de gens aujourd'hui pour dire que ces actes-là doivent être expliqués. Doivent être vus à la lumière d'une politique, d'un contexte géopolitique. Ils font comme si l'abominable était déductible d'une politique. Il ne viendrait à l'idée de personne d'expliquer la Shoah par la misère sociale ou par la sociologie. On a renoncé à cela depuis bien longtemps et il paraîtrait indécent de le faire. Et pourtant, là, alors que c'est la même histoire, il y a des tas de gens qui se trouvent très intelligents de le faire. Et il ne faut pas se tromper. Expliquer ce qui s'est passé ne relève pas d'une envie de le comprendre. Ça relève d'une envie de le minorer. Ça relève d'une envie de montrer, de présenter la barbarie comme quelque chose d'aussi explicable qu'autre chose. C'est la raison pour laquelle les gens qui détestent Israël veulent à tout prix parler uniquement de crimes de guerre. Donc, entre le Hamas et le nazisme, il y a cette nuance. Le Hamas, c'est un nazisme dopé aux sciences sociales, si vous voulez. Cette nuance est essentielle parce que, encore une fois, en termes d'opinion publique, elle change la donne.
Merci beaucoup, Raphaël Enthoven, pour votre parole ce matin sur Radio Judaïka, philosophe. Bon courage à vous et à très vite.
À vous aussi.